Alors c'est pas une insulte, c'est une expression. Vous savez cette phrase qu'on entend tout le temps dans le cadre de ce débat sur l'insulte homophobe, elle mérite quelques éclairages parce que c'est vrai, on entend ça tout le temps et moi je pense que c'est le pire des arguments. L'aveu que l'insulte est entrée ou ancrée dans le langage courant, qu'elle est véhiculée tous les jours, tout le temps, dans des contextes ordinaires, qu'on prend pas la mesure qu'une agression homophobe a lieu aujourd'hui toutes les 36 heures et que plus de la moitié d'entre elles commence par une insulte. Il faut comprendre que si on accepte que pédé, pédale, enculé, gouinasse, tapette, tarlouse, tante, tantouse, folle, fiotte, gouine, lopette, tafiole, fasse partie du langage courant, ben on accepte l'homophobie. On accepte que la langue commune s'enrichisse de mots qui stigmatisent et qui renvoient à la honte systématiquement. Et je vais vous dire, ce sont des mots que j'emploie moi aussi parfois, me demandez pas pourquoi, ça peut paraître fou parce qu'ils me stigmatisent moi, disons que ça fait partie du langage courant. Mais quand j'entends, attendez, j'utilise aussi ce mot pour des hétéros, mais j'aimerais qu'on se pose une fois la question tous ensemble de pourquoi on l'utilise ce mot plutôt qu'un autre, de pourquoi les propos homophobes sont toujours aujourd'hui les formes de discours de haine les plus couramment proférées sur Internet, de si c'est normal que toutes les personnes LGBT en France est déjà dans leur vie était la cible d'injures ou de propos blessants au regard de ce qu'ils sont en 2019. Quand même, va falloir se la poser cette question.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang que fait mon invité des insultes. Il est l'un de nos plus grands chanteurs populaires révélés dans les années 70. Il nous a fait danser du côté de Chez Swan, a pris l'art des vocalises sur Vanina et a apporté un peu de beauté et de sourire avec sa reprise de Sugar Baby Love, Souviens-toi d'aimer. C'est le titre de son nouvel album, Souviens-toi d'aimer, qui sort vendredi. Quelle joie de le recevoir dans Boomerang pour la première fois. Bonjour Dave.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les insultes, lorsque vous entendez quoi?
Moi, je suis frappé par la différence de l'insulte en anglais, parce qu'en anglais, l'insulte, c'est bugger, c'est-à-dire celui qui est actif. Ah. Et en français, c'est enculé, c'est celui qui est donc passif. Hein. Et c'est intéressant, il va y avoir une explication psychologique très intéressante que j'aimerais étudier de près.
Combien de fois ça vous est arrivé à vous de faire l'expérience de l'insulte?
Pas tellement. Moi, je suis assez agréablement surpris par exemple, l'arrivée de Pascal Sevran et l'amour des gens, même âgés, qui ont encore évidemment plus de problèmes avec ça parce que ça faisait pas partie de la vie ouvertement à cette époque-là, qui ont développé une vraie sympathie dans le sens étymologique du terme pour Pascal Sevran, homosexuel notoire à l'époque. Donc, je trouve quand même qu'il y a un progrès là-dedans et je trouve que l'assassinat des femmes bien plus grave que les insultes des PD, quoi.
Bon, enfin, si on peut faire une hiérarchie, effectivement.
Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort, quoi. Moi, on oublie souvent que homophobie, phobie, ça veut dire craindre, avoir peur d'eux.
Mais vous savez qu'il y a des morts, il y a des meurtres homophobes aussi.
Ah, je sais bien, ils font casser la gueule, ça c'est sûr.
Et qu'il
ça
n'est pas arriver, hein. Un jour, sans qu'on nous rapporte une insulte, une violence, une action homophobe qui peut effectivement extrêmement mal se terminer.
C'est vrai.
Ça interroge quand même. Mmh. Et c'est intéressant ce que vous disiez sur Pascal Sevran, Dave, parce que j'ai l'impression que vous n'avez jamais caché en réalité votre homosexualité. C'est quelque chose que vous avez toujours assumé. C'était du courage, c'était une forme d'insouciance.
Je pense que c'est lié à mes origines. Je suis toujours néerlandais, je suis des Pays-Bas, et l'attitude envers les homosexuels est très très différente. Sur l'album qui sort donc demain, il y a une chanson où je chante en duo avec mon compagnon et je croyais que c'était la première fois en Europe et mes frères hollandais m'ont dit mais pas du tout, chinois il y a très longtemps, on n'en parle même plus. Donc voilà, c'est peut-être la première fois en France, mais pas partout, quoi.
Vous qui vivez en France depuis longtemps, qui connaissez bien ce pays, il y a un problème français par rapport à ça?
Pas seulement par rapport à ça, quoi. Le mariage libre, moi j'habite à cette époque-là sur la place Vauban, c'est en bas de chez moi, quoi, les intégristes catholiques. Moi je ne comprends pas qu'ils n'ont pas bien lu la Bible, parce que Dieu est l'amour et il n'y a pas spécifié quel genre d'amour.
Pourtant, vous n'avez pas toujours chanté des chansons qui avaient un lien avec l'homosexualité, Dave?
Non, si. Heureusement.
Non.
Mais oui. C'est-à-dire que moi, je suis toujours ce que m'a dit mon père. J'avais 13 ans, j'étais au lycée classique et mes camarades de mon petit village étaient plutôt paysans et je joue encore au foot avec eux. Et il y en a un qui m'a demandé, je pense en malice, ça veut dire quoi homosexuel? Et je ne le savais pas. Et j'ai demandé à mon père, qui était assis en face de ma mère, je vois la scène et qui disait, mais les homosexuels, c'est deux femmes ou deux hommes qui s'aiment comme ta mère et moi. Amour, amour, pas sexe. C'est le seul problème du mot homosexuel. Il y a trop d'importance sexuelle que Dieu sait que c'est important. Mais c'est pas ça le problème. Donc après, on essaie homophile, mais ça sent pas bien, ça fait hôpital.
Mais cet engagement dans vos chansons, une chanson par exemple comme La fille de papa, dans le disque qui sort, cette chanson il y a 30 ou 40 ans, vous auriez pu la chanter?
Ah, je pense pas, mais c'est parce que ça n'existait pas. C'est pour la même raison qu'à l'époque, c'est-à-dire que les PD, ça veut dire les PD, alors les gays, pardon, de mon âge, ne l'envisageaient pas oui. d'avoir des enfants. À partir du moment qu'on se découvre plutôt préférer les garçons aux filles, ben on sait qu'on va pas avoir des enfants, quoi. C'est un fait accompli. Donc je me suis jamais posé la question. C'est-à-dire que maintenant, les couples qui ont même à partir de 25-30 ans, qui sont deux garçons, deux filles, ils y pensent tout de suite tous, quoi, s'ils ont les moyens financiers de le faire.
C'est le premier extrait de votre nouvel album. C'est un plaidoyer en faveur de l'homoparentalité que vous avez composé pour votre filleule.
Pas moi, hein, c'est pas, la musique est pas de moi et les paroles sont de Patrick Loiseau, qui est donc mon compagnon depuis 48 ans. Et c'est Marc Olivier Fogel, il s'en cache pas, il écrit un livre que je vous conseille. C'est un ami, Marco, donc s'il peut gagner encore plus de sous, je serai content pour lui.
Ah bah d'accord.
Et donc, dans le livre, il explique très très bien. Il y a plusieurs chapitres et sur plusieurs. Il parle pas que de lui. Et donc, il a tout simplement demandé au bord de ma petite piscine dans le Vaucluse, Patrick, tu veux pas écrire une chanson sur ma fille? Et donc, comme je suis le parrain, je trouve ça mignon. Mais moi, c'est avant tout une chanson d'amour, c'est une famille équilibrée avec deux enfants, deux filles équilibrées, une famille d'amour, quoi. Et c'est ça qui me touche.
Et c'est une chanson, comme est-ce que vous pensez qu'on peut changer les mentalités avec une chanson?
Non, hélas non. Sinon, il y a longtemps que ça a devenu un chanteur engagé.
Elle grandit, regardez-la, c'est la fille de papa, comme ils disent. La petite fille de papa a bien compris comment.
Voilà une chanson d'Ève que la Manif pour tous ne va pas utiliser si elle vient à manifester de nouveau dans le cadre du projet de loi sur la bioéthique. Vous le craignez ça, des manifestations, que les manifestations ouais. reprennent?
Ah oui, évidemment. Je veux dire que pas seulement à ce sujet-là. Je veux dire que si j'ai bien entendu tout à l'heure sur France Inter, que demain il y a les grèves du salaire ATP, donc il n'y a pas que ces grèves-là. Il y aura plein de problèmes, évidemment, et c'est bien dommage. C'est bien content. Je comprends pas que les gens veulent devenir président de la République, quoi. Quelle tâche impossible et insupportable dans ce pays qui est si difficile à réformer, quoi. Autre que par la violence.
Devenir père, entre nous, ça vous a déjà traversé l'esprit, à vous?
C'est une chose qui peut vous arriver par erreur, par hasard. Moi, comme j'ai beaucoup navigué et que j'étais dans beaucoup de ports, je vais avoir des enfants partout, sûrement.
mais devenir, l'envie de paternité.
On en a parlé avec mon compagnon, plutôt en rigolant. On a une vieille amie, enfin vieille parce qu'elle a mon âge maintenant, Louise. Et on a dit, et si on faisait un enfant? Et puis ça s'est arrêté là, puis on dit passe-moi le sucre. Donc bon.
Passe-moi le sucre. Et quel genre de père est-ce que vous avez eu, vous?
Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il était quand même, bon, il a fait cette explication d'homosexualité qui était très touchant, mais quand je voulais venir avec un des premiers mecs que j'ai, avec qui j'ai eu mes premières ébats, que je n'oublierai jamais, comme toujours, et il a dit, oui, tu peux venir, mais pas dormir là, parce que dans ma chambre d'amis, je vois pas trop deux mecs dans le même lit. Je l'ai rappelé pour dire, mais je viens pas, et deux minutes après, il m'a appelé pour dire, mais viens, évidemment, excuse-moi.
Ça a été un modèle pour vous, ce père?
Je dirais pas ça, mais je tiens malheureusement beaucoup de lui, j'ai tous ses défauts.
C'est toi. Lesquels?
Ah, je vous dirai pas.
C'est avec lui, en tout cas, dites-moi si je me trompe, hein, que vous avez été initié à la guitare et au piano? Non.
Non, là vous trompez. Non, c'est ma mère qui est artiste. Mon père était prof d'anglais et c'était ce prof avec un EPAP qui voulait avant tout être populaire. C'est un défaut que j'ai aussi. Donc je veux bien être populaire aussi. Mais ma mère est une vraie artiste et quand j'ai fait mon premier Olympia, mon père traînait dans les couloirs de l'arrivée de l'ancien Olympia en abordant les gens, en disant, vous savez, c'est mon fils. Et j'étais très gêné. Et Aznavour, que je connaissais bien, qui était dans ma loge, me dit, t'inquiète pas, mon père faisait pareil. Donc je trouvais ça mignon. Tandis que ma mère était plus cool, elle était contente que son fils fonctionne comme artiste, mais ça ne le faisait pas plus.
Et c'est elle qui vous a enseigné la musique?
Non, du tout. Je suis devenu chanteur parce qu'à l'époque, dans les années 50, je n'étais pas né, il y avait en France comme aux Pays-Bas des orchestres en direct. En France, c'était Jacques Ellian, des choses comme ça. Et aux Pays-Bas aussi, il y avait un chanteur qui s'appelait Max van Praag, Max de Prague, et j'avais 5 ans, et pareil, parce que moi j'ai oublié, que j'ai dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. Et j'ai toujours eu l'impression que je suis un peu géré par les trois sorcières de Macbeth, ou les trois fées, on va dire, qui ont dit, celui-là va être chanteur. Mais après, j'ai fait des études, j'étais à la fac de droit, hein, donc puis j'ai vite compris que quand je finissais de chanter à 4 heures le matin, que j'avais du mal à aller à la fac le matin à 9 heures.
Qu'est-ce que vous ressentiez déjà très jeune quand vous chantiez, Dave?
Je sentais ce que j'ai en premier lieu admiré quand mon père était d'origine juive, mais il était converti protestant, et moi aussi. On était deux sur six, parce que j'avais deux frères et une sœur. Et il y avait que lui et moi qui priaient avant de manger, et les autres attendaient qu'on avait fini nos conneries, en tout cas pour eux. Mais ce qui me frappait à l'église, j'avais donc genre 10 ans, que c'était la pasteur, c'est une femme, qui avait une toge comme les avocats en France avec les petits bavoirs blancs, tout ça, et qui parlait, et moi je voulais faire sa place. Je voulais être celui.
Vous vouliez être la pasteur, d'ailleurs.
Je voulais être celui qu'on écoute. Après, je suis allé voir un concert avec ma mère de Segovia, célèbre guitariste, et je voulais être à sa place. Je voulais être sur scène, je voulais être écouté. C'était un égocentrisme rare, comme tous les artistes, d'ailleurs.
Aujourd'hui, des années plus tard, vous chantez toujours, vous n'êtes jamais arrêté. Qu'est-ce qui pourrait un jour vous faire passer l'envie de chanter?
Ah non, ça c'est pas possible. Autant me demander l'envie de respirer. Non, c'est un viatique. On peut pas arrêter de chanter. En plus, les gens ne savent pas trop, sinon on payerait plus. Mais quand on est sur scène, on a pas seulement d'adrénaline, tout le monde comprend, mais aussi de l'endorphine. On n'a plus mal nulle part. Moi, je me souviens, une fois, j'ai chanté avec Annie Cordy, que j'embrasse tendrement, qui boitait toute...
Nous aussi, tiens, on l'embrasse.
Elle boit toute la journée, elle a un problème des genoux. Et quand elle était sur scène, elle dansait comme une gamine, la bonne du curé, qu'elle n'était pas, mais qu'elle l'interprétait. C'est une grande actrice aussi, hein, n'oublions pas.
Vous voulez dire que ça sauve aussi, ça
guérit?
Complètement.
Ouais. Moi, je suis déjà monté sur scène enrhumée et sorti guéri. Et en plus, on me paye. C'est pas beau, ça?
Ouais, c'est très bien. Vous savez qu'il y en a une qui chutette dans cette émission, qui chante très faux, d'ailleurs. C'est la culture et son actualité crécelle, casserole et castafiore. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 11 septembre?
The best way to be is to be curious. Stand up, keep your eyes open, don't shake, don't blink.
L'Amérique a son image. Le légendaire photographe américain Robert Frank est mort lundi. Il avait 94 ans. Marqué par la contre-culture du mouvement beat, il s'était imposé dans les années 50 avec sa série The Americans, dans laquelle il tire le portrait désenchanté d'une Amérique en déclin. Dépassé par la naissance de son propre mythe, il lâche quelque temps la photo pour le cinéma d'avant-garde. Il restera jusqu'à la fin de sa vie le compositeur révolté par les traditions esthétiques et morales de son temps. Dans mon Netflix trip, la plateforme américaine serait sur le point d'acquérir la mythique salle du Grauman's Egyptian Theater sur Hollywood Boulevard, aujourd'hui classée monument historique et culturel de Los Angeles. La Cinémathèque pourrait ainsi préserver la programmation exigeante qui fait sa réputation auprès du public angelin. Une pétition a déjà été lancée par des amateurs inquiets qui réclament plus de transparence dans la négociation. Bref, que du bon.
One of the key works in Blake's oeuvre and in the Blake collection at Tate.
La Tate Britain inaugure aujourd'hui sa vaste exposition consacrée au peintre William Blake, qui a créé certaines des images les plus iconiques de l'art britannique. Jusqu'au 2 février, on pourra y découvrir plus de 300 œuvres originales, dont d'immenses projections numériques, ainsi qu'une reconstitution unique du petit atelier qu'abritait son domicile. Tranquille. Mercredi de couleur, séance à l'honneur, car dans les salles aujourd'hui, on chasse son chagrin avec Afsia Herzi qui présente sa très belle première réalisation, Tu mérites un amour, dont elle nous parlait hier à ce micro. On retombe dans l'univers clownesque du très attendu Ça, chapitre 2 d'Andy Muschietti, et sinon on redécouvre Jeanne dans un portrait fascinant de la Pucelle d'Orléans, récit puissant, signé Bruno Dumont, c'est si bon ça. Dave, invité de Boomerang ce matin pour la sortie après-demain de son nouvel album. Un album en français, évidemment. Quand et comment est-ce que vous avez appris le français, en fait?
Au lycée, quoi. J'ai fait un bac qu'on appelle littéraire en France, avec beaucoup de langues, le latin, du grec, français, anglais, allemand. Et donc, mais j'étais pas spécialement bon en français. Parce que quand je suis arrivé en France en 66, je parle un petit peu black, puisqu'on peut plus dire petit nègre.
Non, on peut pas dire petit bloc non plus, Dave, je vous rassure. Vous pouvez rien dire ici. Enfin, si, vous pouvez dire, mais pas ça, en tout cas. Vous avez déjà chanté des chansons en néerlandais devant un public?
Oui, pas facile, hein. C'est-à-dire qu'en hollandais, je t'aime, c'est ik hou van jou. Les gens ont l'impression que tu vas le mordre, tu vois.
Oui,
ça sonne pas très bien. J'adore en italien, ti voglio bene. Ça, c'est joli.
Mais d'ailleurs, je me pose la question, quand vous étiez petit, qui étaient les grandes incarnations de la chanson populaire hollandaise?
Il n'y en a pas vraiment. La chanson hollandaise est très faite de la bière, quoi. Il y a évidemment ce qu'on appelle chez nous le cabaret.
C'est un festival, là, ce matin, d'ailleurs.
C'est pas méchant.
Non.
Non, mais j'observe. Ouais. Mais la chanson, chez moi, mon père était vraiment francophile. Donc, j'ai grandi avec, la bombe atomique de Boris Vian chantée par Mouloudji, quoi. Ou Catherine Sauvage, les chanteurs des années 50.
Donc, vous avez toujours su que votre carrière de chanteur se ferait en France?
Ah, pas du tout, non. Moi, je suis parti des Pays-Bas parce que j'ai de la génération beat, comme vous le dites tout à l'heure. Alors, j'avais envie de voyager, je suis parti. On voulait aller avec mon camarade, qui malheureusement n'est plus, vers la Crimée, parce qu'on était très Dostoïevski tous les deux. Et Raskolnikov a une immense importance dans ma vie. J'ai fait beaucoup de conneries en essayant de voir ce que je pouvais supporter, quoi. Et on voulait aller vers la Crimée, on n'est jamais arrivé. Et je suis resté coincé en France. Parce qu'on est passé, on est parti en automne et on n'a pas pris la mer, on a pris les voies fluviales. Et là, comme lui, il est parti parce qu'il n'avait pas tout à fait les mêmes mœurs que moi, c'était difficile, donc il est parti. Rester mon ami jusqu'à la fin, parce qu'il est mort. Mais c'est vrai qu'il y a eu une rencontre avec les Français. D'ailleurs, un jour, dans un talk show aux Pays-Bas, quelqu'un m'a dit « Comment tu peux vivre en France avec ces gens arrogants, prétentieux, nombrilistes ?» Et j'ai répondu « Parce que je passe inaperçu. » Donc ça veut bien dire ce que j'avais dit.
Cette France du milieu des années 60, elle ressemblait à quoi, Dave ? Qu'est-ce qui vous a marqué tout de suite quand vous êtes arrivé ici ?
La première chose qui m'a vraiment, vraiment fait mal, c'était les clochards. Sur la place de Contrescarpe, parce que j'avais jamais vu ça aux Pays-Bas. Il y en avait pas. Maintenant, il y en a partout aux Pays-Bas, comme ici, quoi. Et ça s'appelle maintenant SDF, parce que quand ça fait mal, on prend des initiales. D'ailleurs, dans une chanson sur l'album qui s'appelle Sous quelle cancelle, on dit quatre initiales assassines sans dire le mot sida. Ça fait marre. Et même sida, c'est des initiales. Donc, c'est vrai, ça m'a fait frapper. Mais en même temps, très vite, il y a eu mai 68 et je me suis dit, tiens, on vit quand même si c'est avec 300 de retard, parce qu'aux Pays-Bas, c'était en 65, ça s'appelait les Provos. On y arrive quand même. En gros, la France a 300 de retard sur le reste du monde. C'est pas gentil non plus. Ils vont me chasser.
Mais les débuts dans la musique, ils ont pas été faciles, je suppose.
Ah, la Manche. Oui, mais c'est pas...
Ah, vous avez fait la Manche.
J'ai fait la Manche de 65 à Godspell, 72. C'est génial, la Manche.
Vous chantiez?
Ah ben, j'ai chanté dans des cafés rue Saint-Jacques, dans un crêpe rue Saint-André.
Et vous chantiez la Java des bombes atomiques ?
Non, j'ai chanté Le Déserteur de Boris Vian. Ah. C'était une des rares chansons où parfois je me faisais engueuler par des messieurs avec des bérets basques et une baguette sous le bras. Ça plaisait pas à tout le monde, cette chanson antimilitariste. Mais moi j'aimais bien, puis ça me faisait penser à ma jeunesse. Et sinon, j'ai chanté plutôt le dernier tube. J'ai chanté Yesterday, j'ai chanté des choses comme ça qui marchaient. Puppet on a String de Sandy Shaw, les chanteurs de pieds nus. Oh. Les chansons de l'époque, quoi.
C'est marrant parce que quand je vous regarde, quand je vous entends en parler, j'ai l'impression qu'il y a une forme de nostalgie. C'est d'ailleurs le titre d'une de vos nouvelles chansons, ouais. Nostalgie. Ça évoque quoi pour vous,
la nostalgie m'évoque le parti Algie aussi, parce qu'Algie, ça veut dire douleur, évidemment. Et donc, quand je vais dans le village où j'ai grandi, je suis très heureux et en même temps, je suis un peu malheureux parce que ma famille n'est plus là, tout a changé. C'est ça, la nostalgie. Mais en même temps, en France, j'ai l'impression que la nostalgie a un côté péjoratif que je ne comprends pas. Il n'y a pas de mal. Notre émission d'aujourd'hui, j'y penserai dans six mois, avec une certaine forme de nostalgie, j'espère, et pas avec une haine profonde pour ce que vous m'avez fait dire.
Quel garçon est-ce que vous étiez quand vous avez commencé à avoir du succès ? Vous étiez prêt à ça ?
J'étais surtout surpris. Il y a une chanson sur l'album, le mec qui tire tout le temps vers l'album, il y a une chanson sur l'album où j'ai dit « adolescent étonné d'additionner tant d'années ». Et c'est ça que je suis, adolescent éternel et surtout étonné. Oui, parce qu'à l'école, c'était pas très populaire parce que j'étais déjà un petit peu caustique. Donc pour faire rire, je fais pas faire du mal, c'est une rare chose qui me fait rougir d'ailleurs. Et surtout mon corps, c'est très beau à voir. Enfin, c'était. Et oui, c'est une plus brève aujourd'hui.
Mais si ça va, Dave.
Oui, si votre gérontophile, ça va aller.
C'est pas mon genre.
Ah bon, bah, tout ça va. Bon, on va pas se croiser.
Vous êtes dur avec vous-même.
Non, lucide. Et comme toutes les qualités, à un certain moment, les qualités deviennent des défauts. Comme l'opéna traité. Donc,
Vous étiez un garçon libre quand vous avez commencé à avoir du succès ?
Comme j'étais pas populaire avant de devenir un chanteur populaire, j'ai essayé d'être à la hauteur de ce qui m'arrive, quoi. Mais je suis un méchant avec bon fond, contrairement à plein de gens.
Tout est passé très vite, en fin de compte, non?
Ah oui, trop vite.
Trop vite?
Ouais, je croyais plus malin que les autres, mais je me suis fait serrer pressé comme un citron. J'ai vendu 3 millions de disques sur 18 mois. J'aurais mieux fait de le faire sur 5 ans. On aurait toujours dit quel vendeur. Donc, faut pas aller trop vite, mais j'étais trop content, quoi.
Vous parliez d'adolescent étonné. Vous êtes toujours un adolescent dans votre tête?
Un petit branleur.
Un petit branleur de quel âge?
De 75 ans.
De 75 ans, mais dans votre tête, vous avez quel
14.
Âge?
14. Je commence à découvrir le monde. Ah. Non, mais c'est vrai, un jour, quelqu'un m'a dit que j'étais naïf, et je préfère ça de loin à être cynique, quand même. Cynique est un mot très injuste, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas plus gentil que les chiens.
Et c'est vrai. Ça vient des culons. Étymologiquement, cynique, ça vient du chien.
Ah, oui.
Enfin, ça peut mordre un chien aussi.
Oui, mais quand on le fait du mal, pas de lui-même.
Vous avez beaucoup mordu, vous?
Pas assez, sûrement, mais non, je suis... on parlait des défauts, j'ai une vraie défaut, je pense que j'ai recul plutôt devant des situations conflictuelles. Mais il ne faut pas non plus me traiter de PD, ça m'énerve. puisqu'on parle de ça au début, il y a 2 heures.
S'il y avait quelque chose à refaire aujourd'hui, vous referiez quoi?
J'ai trahi parfois aussi, et ça c'est pas bien. Mais parce que la chair est faible.
Trahi en amour?
Ben oui.
En amitié aussi?
Non, au moins c'est l'avantage de l'amitié. Faut lire James Baldwin. Si je peux donner un conseil aux auditeurs, lisez James Baldwin, Un autre pays, ça, vous comprendrez mieux.
Je vous rejoins là, tu veux toujours lire James Baldwin, c'est une très
vous
bonne idée.
Ouais.
Ah bah totalement. Bon, moi, ça me fait plaisir de vous parler d'amitié, on va remonter le temps ensemble, en toute amitié, jusqu'en... Tiens, 1974, c'est une année importante,
bah
parce que c'est l'année de Vanina. Ah bah, et vous portiez une chemise, col, pelle à tarte, un pantalon pâte d'ève, vous aviez une coupe de cheveux à la Clo-Clo et vous écoutiez quoi? Ah, Boomerang, évidemment.
Trapenard.
Moi, je vous le dis, avec son regard bleu des mers du Sud, il a dû en faire tomber plus d'un et plus d'une sur le bas-côté et tous les ports, comme il le disait. Et ce qui frappe, c'est évidemment son sourire qui sent bon la tulipe, le moulin avant et la piste cyclable. Il a le cheveu blanc, léger, dans le vent, très élégant ce matin avec sa chemise noire. Dave, le chanteur invité de Boomerang pour son nouveau disque « Souviens-toi d'aimer », un disque produit par Renaud, un disque très personnel. Et quand je l'ai écouté, cet album, j'ai été très ému par la dernière chanson quand même, qui s'appelle « Dernier regard ». Cette chanson, elle parle de qui ? Dave.
Elle parle de ma mère, et c'est bien que vous m'en parlez, parce que justement sur scène j'ai dit ces 3 mots, une chanson pour ma mère.
Pourquoi vous le dites ?
Parce que sinon on pourrait croire que c'est une chanson d'amour, et évidemment quand, vu le texte, j'aime provoquer une curiosité des gens qui disent « Ah bon, qu'est-ce que c'est ?» etc. Et c'est la seule chanson où les gens à la fin n'applaudissent pas de suite. Il y a une espèce de... J'entends toujours renifler quelqu'un, elle touche vraiment parce qu'elle est simple mais elle est vraie.
Qu'est-ce qu'elle raconte ?
Elle raconte, ma mère était euthanasiée, mon compagnon Patrick n'était pas là à ce moment-là, il est resté à l'hôtel, mais il a vécu ça de très très près, et quelques mois mois après, on a eu cette mélodie de Thierry Geoffroy, qui d'ailleurs est l'auteur de la plupart des chansons et le réalisateur et co-réalisateur de l'album de Renaud, qui va sortir bientôt et qui est formidable. Et il a écrit cette chanson dans une maison qu'on avait dans le Périgord à l'époque, et je l'ai entendu pleurer. Et je l'ai rarement entendu pleurer. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et pour me répondre, il m'a tendu la feuille sur laquelle il avait ce texte-là.
Comment vous avez réagi?
Ah, j'ai pas pleuré, mais j'ai dit, putain, quel texte, quoi.
Dans quel état est-ce que vous êtes quand vous la chantez, cette chanson?
Professionnel, parce que j'ai eu mal fou à le chanter en studio, je pleurais. On peut pas chanter et pleurer. Et une fois, il y avait mon petit frère qui a maintenant 73 ans, mais j'ai quand même mon petit frère qui était dans la salle et j'ai pas pu finir. J'ai pleuré. On peut pas. Mais donc, il faut le faire. Il faut servir de cette émotion comme un acteur qui se sert de tout ce qui lui est arrivé dans la vie, quoi. On peut pas être dedans totalement. C'est pas possible.
C'est un acteur, un chanteur pour vous?
Quelque part, mais c'est un acteur qui passe sa vie à se jouer lui-même. Nous, quand moi, j'ai une chanson qui est le plus grand succès sur scène depuis toujours, qui s'appelle La Décision d'après une œuvre de Brahms. Et je pense toujours à mon mec pour le chanter. Comme ça, je suis sûr d'être vrai, quoi. C'est très important. Mais je ne le dis pas aux gens, évidemment.
Votre mère, quelle femme est-ce qu'elle était?
Ah, ça. Elle était danseuse, elle avait ce petit chignon derrière, elle était droite. Elle m'a dit le plus grand compliment qu'elle m'a fait après qu'elle est venue me voir à l'Olympia. Elle me dit, tu chantes aussi bien que tu danses mal. Et je danse très très mal. Donc c'est un vrai compliment.
Et qu'est-ce qu'il y avait d'elle en vous?
Je pense qu'elle était plus hollandaise encore que moi. Très 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 franche, très solaire, quoi. Elle avait les yeux bleus que j'ai moi aussi. Les siennes étaient plus jolies dans mes souvenirs. Les miennes sont légèrement aqueux maintenant. Mais dans aqueux, il y a A, donc c'est pas grave. La dernière fois que je l'ai embrassée, c'est quand elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer et qu'elle allait probablement mourir. Et je n'ai jamais oublié ce moment parce que, en même temps, j'ai compris en l'ayant dans les bras ce que c'est l'amour. Parce que c'est les mêmes fusions, les mêmes atomes crochus qu'avec mon bien-aimé. Et ça, c'est très émouvant.
Des épreuves comme celle-là, vous en avez vécu plein?
Hélas, dans les années sida, j'ai perdu vraiment, on ne va pas compter, mais 80% de mes amis. Et nous, on y a échappé parce qu'on allait tous les ans en Californie pour couper l'hiver. Et on était au courant quelques années avant, quoi. Donc on a arrêté de déconner juste à temps.
Et qu'est-ce qui vous a permis de surmonter le deuil, la tristesse?
L'homme surmonte tout. C'est ça qui est étonnant, quoi. On peut tout surmonter. Ou alors, on arrête de vivre. Je veux dire, je pense toujours être intelligent, il est vivant, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus dur que de perdre un enfant, dans quelque situation que ce soit, mais là, c'est encore plus insupportable. Donc, je pense que... Il y a la chanson de Berger et France Gall à la mort de Balavoine qui m'a beaucoup ému aussi, parce qu'on rit toujours, mais pas comme avant. Mais on rit toujours.
C'est votre cas?
Ah oui, oui.
Au fond, qu'est-ce qui vous attirait dans cette profession de chanteur? C'était la scène?
Non. Oui, avant tout, c'est la scène. C'est donc, comme je disais, il y a le côté égocentrique d'être écouté, de l'envie de plaire et de vivre des moments intenses le plus souvent possible, quoi.
Qu'on vous regarde?
Oui, aussi, mais plutôt qu'on m'écoute, parce qu'il faut peut-être arrêter un peu de me regarder maintenant. Il faut un très bon éclairage.
Mais oui, vous le dites avec beaucoup d'autodérision, mais c'est une crainte qu'on ne vous regarde plus, qu'on ne vous écoute plus non plus.
Ah ben évidemment, c'est-à-dire que... Mais il y a tellement de circuits que les gens ne connaissent pas dans les médias. Moi, je connais plein de chanteurs dont on ne parle quasiment jamais et qui continuent à bosser. Et moi, dans les années 80, j'ai vécu un peu ça. Et c'est vrai, ça m'a même permis de régler mes impôts. Quand on gagne de l'argent au black, on peut payer les impôts. C'est dingue. Ouais. C'est
une contradiction. On cherchait un modèle ou un contre-modèle, on l'a trouvé ce matin, il n'y a pas de problème. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes monté sur scène, Dave, pour chanter devant un public?
Oui, je me suis cassé la gueule parce que j'ai chanté une chanson au lycée de Kurt Weill et Bertolt Brecht.
C'était quoi?
Ça s'appelle Das Trunkenmädchen, La fille noyée. Et c'était très très mal choisi. J'avais pas encore compris qu'il fallait être, comme disait Léo Ferré, je suis la plus grosse pute de la chanson française. C'est ça aussi notre métier, c'est de la putasserie aussi.
Ouais.
Mais il faut le faire bien, quoi. Un chanteur n'a pas de définition exhibi et le public est vailleur, donc c'est un bel échange.
Vous avez cette impression-là parfois encore aujourd'hui?
Ben évidemment, c'est quand on chante une chanson pour ma mère, ou même quand j'en parle aujourd'hui, c'est une forme d'exhibitionnisme. Mais c'est nous, quoi. C'est-à-dire que j'adore le métier d'acteur que je sais pas faire, parce qu'ils jouent un curé, un garagiste, un employé de banque. Ça va être très enrichissant.
Et dans quelle mesure la scène, je me pose la question, vous a permis de vous débarrasser de ce qui pesait, des chagrins, des errances, des pertes?
J'en sais rien, parce qu'il faut savoir dire, je ne sais pas. Je sais même pas qui je suis, comme tous les gens connus. C'est un problème d'identité énorme, quoi. On ne sait vraiment pas qui on est, quoi.
C'est vrai?
Ouais. J'essaie de ressembler le plus possible à ce que les gens pensent que je suis, mais je ne le suis peut-être pas. C'est très compliqué.
Mais vos modèles ultimes ?
Il y a des gens pour lesquels j'ai une énorme tendresse. J'aime beaucoup George Wilson, c'est pas c'est le nom qui me vient comme ça, parce qu'il était, craint. Il était sévère et moi je le trouvais attendrissant. Je suis intimidé, je sais pas pourquoi, par Vanessa Paradis. C'est la seule personne qui m'intimide, mais m'a mal à l'aise. Il doit y avoir une raison, mais c'est pas ça, peut-être physique. Hein. Je sais pas pourquoi. Donc, mes modèles, peut-être avant tout, ça serait peut-être un des frères Karamazov. Parce que, honnêtement, c'est comme un dieu, quoi. Quelqu'un qui est vraiment bon et qui y arrive. Ça, c'est fort.
Vous allez nous chanter quelque chose ce matin.
Vous croyez ?
Ah ben, j'aimerais bien, en tout cas. En français ou en anglais ?
Alors ça, c'est drôle, parce que c'était une chanson de Gilbert Bécaud. J'en profite pour dire qu'on a vraiment trop oublié. Il y a deux chanteurs que je trouve inadmissibles, dont on parle plus, c'est Claude Nougaro et Bécaud. Et Bécaud a fait une chanson qui s'appelle « Je t'appartiens » et qui est un immense standard, autant que « My Way » comme d'habitude, et que j'ai essayé de vous interpréter, que j'avais fait sur un album avec Kerenan, qui parle hollandais. Et là, je vais le faire avec mon attaché de presse, qui n'est pas mon attaché de presse, qui est un attaché de presse, mais qui est aussi chanteur, qui a une très jolie voix.
Qui s'appelle Thierry Galli.
Thierry Galli, qui est très connu dans le métier, mais pas comme chanteur, malheureusement, parce qu'il chante très bien.
Alors, on vous écoute, Gilbert Bécaud, en anglais. Décidément, vous ferez tout à l'envers, Dave, aujourd'hui. Hein.
Ah, ben, c'est mes mœurs, hein.
I bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take this hand from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time we need love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you always let it be me. Each time we need love, I find complete love. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me you love me only, and that you always let it be me, and that you always let it be me.
Mais merci à tous les deux. Merci, Dave, pour cet Elvis du matin aux couleurs de Bécaud, accompagné au cœur, donc on le disait, par Thierry Galli. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Souviens-toi d'aimer sort vendredi. Je précise que vous serez en concert le 18 novembre à Bobino, à Paris. On l'espère bientôt dans toute la France. À la prise de son ce matin en direct, c'est important de le dire, c'était Pauline Laverdure et Maxime Ingrand.